Le débat africain, Namori Dosso.
Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI, une émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains. Comment ont-ils perçu l'actualité sur le continent et ailleurs dans le monde, de Conakry à Cotonou en passant par N'Djamena? Nos consoeurs et confrères nous livrent leur point de vue. Dans la deuxième partie de ce débat africain, nous reviendrons sur la semaine totalement rocambolesque en Corée du Sud, le pays du matin calme où le président a déclenché une crise politique en instaurant pendant quelques heures la loi martiale.
Compte tenu des nouveaux faits, je pense qu'une suspension rapide des fonctions du président Yoon Suk-yeol est nécessaire pour préserver la République de Corée et son peuple.
L'opposition et le parti du président demandent son départ après l'imposition surprise de cette loi martiale puis de son abrogation, après un vote des députés qui ont défié des soldats armés dans l'enceinte même du Parlement. Nous parlerons également d'une grâce présidentielle, celle du président Joe Biden, à destination de son fils, un geste qui fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Mais tout de suite, l'actualité en Afrique est marquée par la tragédie de Nzérékori dans le sud-est de la Guinée, à l'issue d'un match de football à la gloire du général président Mamadi Doumbouya. Au moins 56 personnes sont mortes dans une bousculade. Certaines ONG parlent d'un chiffre trois fois supérieur. Enfin, au Sénégal, les critiques du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Le ministère de la Communication a publié la liste des médias reconnus par le gouvernement afin de lutter contre la désinformation et les discours de haine. Une sélection politique, estiment certains patrons de presse. Ces sujets d'actualité, nous en débattons avec nos trois invités. Boubacar Santobari, administrateur général du site d'information guinéen lejelly.com et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Punch. Wuldat Mama, consultante spécialisée dans les questions internationales pour la société de radio et télévision du Bénin. Enfin, Eric Topona, journaliste tchadien au sein de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle en Allemagne. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour à tous les
bonjour
auditeurs.
Bonjour Namori, bonjour à tous.
Bonjour.
Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement guinéen rend hommage aux victimes et présente ses condoléances aux familles endeuillées.
Selon les informations recueillies à l'hôpital régional de Nzérékori, on estime à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Nzérékori.
Les autorités prises de panique ont forcé la sortie. Ce drame aurait dû être évité.
C'est eux qui organisent le tournoi pour la promotion de la candidature de Doumbouya. Et aucune disposition n'a été prise pour assurer la sécurité. Non seulement ils organisent la manifestation, et c'est pourquoi c'est eux seuls qui sont responsables.
Vous savez, la malgouvernance d'une manière ou d'une autre, lorsqu'elle dure, on finit toujours par la payer chèrement. Et la situation de ce stade en est un exemple illustratif.
Où se situent les responsabilités après la tragédie de Nzérékori dans le sud-est de la Guinée? Dimanche dernier, la finale du tournoi de football général Mamadi Doumbouya devait être un moment de fête et de communion, mais elle a tourné au drame après une contestation arbitrale. Des jets de pierre ont terni la finale, les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes, ce qui a donné lieu à des mouvements de foule. Bilan officiel, 56 morts, au moins 135 selon des ONG locales. Les critiques s'accumulent contre le pouvoir accusé d'avoir failli aux exigences de sécurité et d'avoir favorisé la tenue de ce tournoi de football à la gloire du général président. Boubacar Santobari à Conakry en Guinée, pensez-vous, comme le Premier ministre, que les responsabilités se situent au niveau de l'arbitrage et de la malgouvernance?
Oui, l'arbitrage y est pour quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Le choix même d'organiser ce tournoi dans l'enceinte de ce stade qui est en chantier, et puis l'utilisation du gaz lacrymogène dans une enceinte aussi pleine, avec des normes de sécurité qui ne sont pas réunies. Ces aspects aussi relèvent de la responsabilité de tous ceux qui ont organisé le tournoi. Et puis au-delà, même les autorités qui ont cautionné ce tournoi, même si au niveau individuel, c'est pas elles qui ont organisé le tournoi, mais le ministre secrétaire général de la présidence, avec beaucoup d'autres membres du gouvernement, était là à l'occasion de la cérémonie de lancement du tournoi. Donc, d'une certaine façon, au plus haut sommet, on a apporté la caution à l'organisation du tournoi, et dans un contexte où, a priori, l'organisation de ce type de manifestation est interdite par un communiqué pris par le CNRD lui-même.
C'était en 2022, si je ne me trompe pas.
Voilà. Et cette interdiction n'avait pas encore été rapportée. Et du jour au lendemain, on a vu fleurir à travers tout le pays des tournois de ce type pour promouvoir la candidature du général Mamadi Doumbouya.
Boubacar Sansoubari, on va revenir dans un instant sur justement la nature de ces mouvements qui ont fleuri en Guinée. Mais avant, j'aimerais entendre Wouldat Mama, notre consoeur au Bénin. Que vous inspirent les explications données par le Premier ministre guinéen ?
Oui, tout d'abord, Namori, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous ces jeunes gens qui sont décédés, en majorité des personnes de moins de 18 ans. Donc c'est vraiment la jeunesse du pays, les forces vives qui sont parties. Je m'aligne sur ce que mon confrère vient d'énumérer. Je ne suis pas convaincue par les explications qui ont été données. Et puis, il faut qu'on aborde la question également du bilan qui fait polémique entre, d'une part, ce qui est en tout cas dispensé par les pouvoirs publics guinéens, donc un bilan de 56 morts. Et de l'autre côté, nous avons plusieurs organisations de la société civile qui doublent ce bilan.
Y aurait-il une forme de minimisation de la part du pouvoir en Guinée ?
Mais clairement, Lamori Dosso, et ça n'est pas seulement une analyse de ma part, puisque mardi même, le ministre de la Justice sur Facebook a indiqué que quiconque diffuserait des informations non vérifiées et malveillantes et susceptible de troubler l'ordre public serait arrêté. Donc vous voyez là que c'est accompagné d'une censure, clairement, et bien dans l'appréciation qui est faite dans les commentaires de cet événement. Donc vous voyez que dès lors qu'il y a un lien évident entre cette manifestation public et les autorités guinéennes qui ne peuvent pas se départir de leurs responsabilités.
Alors, le match a eu lieu dans un stade vétuste, Nzérékoré, avec une ou deux sorties obstruées par des véhicules des forces de sécurité au moment de la bousculade. Eric Topona, à Bonn en Allemagne, les autorités guinéennes auraient-elles sciemment ignoré l'aspect sécuritaire lors de ce tournoi, selon vous ?
Ce n'est pas une spécificité guinéenne. Il y a eu d'autres drames dans d'autres stades du continent africain. Mais le contexte guinéen aurait voulu que les autorités prennent des mesures sécuritaires pour justement prévenir de tels drames. Bon, il faut se rappeler que en Guinée, on sait que les forces de l'ordre ont péché par leur manque de professionnalisme. Sinon, même s'il y avait, des bousculades, où les esprits s'étaient échauffés, des forces de l'ordre bien entraînées, bien formées, auraient pu contenir ces manifestations et non tirer des gaz lacrymogènes dans un stade vétuste et qui est en chantier. Donc la responsabilité incombe aux autorités militaires de la transition. Elles auraient dû prendre des mesures justement pour que la sécurité puisse être assurée et que ces morts-là puisse être évité.
Boubacar Sansoubari à Conakry, comment est-ce que vous expliquez le choix d'organiser ce genre de rencontre avec autant de monde dans de telles conditions ?
Disons, seules les autorités peuvent l'expliquer, sinon que pour le grand public, l'organisation de tous ces tournois s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme visant à revenir sur les engagements du président de la transition. Vous savez que tout au début, on l'a tous entendu, il l'a dit sur tous les toits, que lui et aucun membre de la transition ne brigueraient un mandat électif à l'issue de la transition. Mais depuis quelques mois, on sent une velléité de revenir sur ses engagements et le motif...
C'est ce qui expliquerait tous ces mouvements de soutien, ces tournois de football en l'honneur de Mamadi Doumbouya ?
Oui, oui, on veut invoquer les mobilisations à travers les tournois, les lectures de Saint-Courant pour justifier la demande de la part des populations qui amènerait du coup le président à se dire, écoutez, avec toutes ces mobilisations, avec toutes ces demandes qui viennent des populations, des demandes présentées comme spontanées, comme ça, ce serait peut-être plus facile pour lui de dire que c'est à la demande des Guinéens qu'il est obligé de revenir sur ses engagements. Autrement, il n'y a aucune logique derrière. Il y a des compétitions nationales qui peinent à démarrer. On se demande comment est-ce qu'on peut du coup lancer des compétitions informelles de ce type. Et je rappelle, dans un contexte où les activités de la société civile, les états-majors politiques n'ont pas le droit d'organiser ce type de mobilisation sous la voie publique et dans la rue. Et quand on disait tout à l'heure que pourquoi est-ce que les autorités ont négligé le volet sécuritaire, c'est qu'à la base de l'organisation du tournoi, c'était uniquement susciter la plus grande mobilisation possible. C'est pourquoi on n'a pas non plus veillé à faire en sorte que le nombre de supporters qui viendraient au stade soit conforme probablement à la capacité d'accueil du stade. On voulait la plus grande mobilisation possible pour que, via les images de la RTG, les médias d'État, qu'on puisse vendre ça comme une mobilisation à l'honneur.
Alors Boubacar, précisons que le général président Mamadi Doumbouya a promis la création d'une commission d'enquête sur les événements afin de faire la lumière et d'établir les responsabilités de cette tragédie au stade de Nzérékoré. Néanmoins, en ce qui concerne le général Mamadi Doumbouya, le drame de Nzérékoré n'est-il pas un caillou dans sa botte ?
Oui, on sent même subitement une espèce de gêne depuis le drame du dimanche. Toutes les communications officielles essaient de disjoindre le tournoi et l'image du président de la
D'ailleurs,
transition.
Désormais, aucun tournoi ne pourra porter le nom du président général.
En tout cas, et ça aussi...
C'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre.
Oui, sauf accord express de la présidence. Je pense que c'est peut-être une exception qui risque de devenir la règle. Mais en tout cas, depuis le dimanche dernier... Toutes les communications officielles ne rappellent plus que le tournoi, c'était un tournoi de la refondation ou un tournoi portant le nom du président de la transition. On dit simplement un tournoi, une compétition sportive, comme s'il s'agissait d'un tournoi organisé uniquement à Nzérékoré par des fils de Nzérékoré, par une association n'importe laquelle, alors que, encore une fois, le jour du lancement du tournoi, on n'avait pas moins de 5 membres du gouvernement avec en tête le ministre secrétaire général de la présidence de la République.
Alors, Boubacar Sansobari, on va donner la parole à Eric Topona. Eric Topona, pensez-vous que le drame de Nzérékoré est une tache sur le chemin, d'une certaine manière, sur l'étendard du président général Mamadi Doumbouya quant à son éventuelle prochaine candidature lors de la présidentielle en Guinée ?
Non, moi je pense que la tempête va baisser. C'est vrai que pour le moment, les autorités de la transition sont gênées aux entournures puisque ce tournoi a été organisé justement à la gloire, donc du chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Les responsabilités doivent être établies et nous savons comment ça fonctionne dans nos pays africains. L'émotion va passer. La commission d'enquête qui a été mise en place ne produira certainement pas de bons résultats. Je pense que les autorités vont essayer de camoufler et ce drame, quoique malheureux, ne va pas empêcher, constituer un frein dans la dynamique du général Doumbouya qui va être candidat aux prochaines élections. Donc il va falloir juste que les responsabilités soient établies et que les autorités évitent à l'avenir que de tels drames ne surviennent en assurant la sécurité dans les stades. On a écouté sur le RFI en début de semaine le Premier ministre Baouri qui a essayé de rejeter le tort sur l'arbitrage. Mais l'humilité aurait voulu que le Premier ministre reconnaisse les responsabilités de l'État, des forces de l'ordre, essayer de mener des enquêtes, même si les résultats ne seront pas probants, concluants, pour justement tourner la page et éviter que de tels drames ne surviennent en Guinée.
La situation en Guinée, on continue à en parler chaque matin sur RFI, notamment à travers la revue de presse dès 6h44, temps universel.
Le débat africain.
La non-conformité de toutes ces entreprises.
Les entreprises qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas enregistrées, l'État ne peut pas les reconnaître. Il faut que les dispositions prévues par la loi s'appliquent dans toute sa rigueur.
Que la loi, encore une fois, puisse s'appliquer dans toute sa rigueur.
Dans tout l'arsenal juridique sénégalais, en aucun cas, un ministère de la communication n'a le droit de valider l'existence d'une entreprise de presse ou d'un média. Nous n'excluons aucune forme de lutte contre la forfaiture du ministre de la Communication.
L'autre sujet d'actualité africaine qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la liste des médias conformes au code de la presse publiée mardi par le ministre de la Communication au Sénégal. 112 dossiers ont été validés de façon provisoire sur les 380 déposés. Alioune Sall, le ministre de la Communication, a réaffirmé sa volonté de réguler le secteur afin de le rendre plus transparent et plus professionnel. Mais pour le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal, il s'agit pour le pouvoir d'éliminer des entreprises de presse. Wouldat Mama Akotonou, est-ce au gouvernement sénégalais de décider quelle entreprise de presse est légale ou non dans le pays ?
Alors, Namouri, moi, je pense que c'est le droit de, c'est du droit de l'État de faire bénéficier le fonds alloué à la presse à ceux qui répondent aux conditions établies par le code de la presse. Et ce n'est pas le gouvernement actuel, ce n'est pas non plus le PASTEF qui établit ce code de la presse. Mais je regrette que les groupes de presse qui ne sont pas autorisés soient frappés d'une interdiction. Parce que peu importe ce qu'on leur reproche, leur fonctionnement, s'il est opaque, s'il s'agit de plumes qui sont mises à gage pour peut-être déstabiliser le pouvoir en place, je pense que la meilleure façon de les combattre, c'est davantage en menant des enquêtes pour relever peut-être des conflits d'intérêts, des conflits de loyauté au sein de ces organes de presse. Malheureusement, je pense que les frappés d'interdiction, l'interdiction comme ça, c'est quelque chose qui envoie un mauvais signal. Et d'ailleurs, on l'a bien entendu, ça permet d'ailleurs à ces organes-là de brasser cette rhétorique de la victimisation.
Alors, Mamadou Ibrakane, le leader du mouvement citoyen Demain, c'est maintenant, estime pour sa part qu'il s'agit de la volonté du gouvernement de museler la presse. Boubacar Sansobari, cette explication n'est-elle pas quelque peu exagéré?
Comme disait tout à l'heure ma consort du Bénin, il est du droit des autorités sénégalaises d'essayer, en tout cas quand elles se rendent compte que certaines entreprises de presse notamment ne fonctionnent pas conformément au code de la presse, d'essayer de remédier à tout ça. Mais ici il y a eu démarche martiale, un peu dictée par une certaine force, au point qu'on peut soupçonner de la mauvaise foi. Sinon, rien ne coûte de rencontrer ces entreprises de presse, discuter avec elles, procéder peut-être dans un premier temps par le biais de la sensibilisation, parce qu'il ne faut pas non plus ignorer que les désaccords entre le pouvoir actuel et le monde des médias au Sénégal ne datent pas de ce conflit autour de la conformité ou non.
Boubacar, précisons quand même que le ministère sénégalais de la Communication rappelle que certains médias proches du pouvoir, comme les Web TV, Jotna ou Khalat, sont également absentes de la liste. Éric Topona, compte tenu du nombre très important de médias au Sénégal, ne fallait-il pas assainir quelque peu ce secteur ?
Sur le principe, je ne blâme pas la décision des autorités sénégalaises justement d'assainir, puisque le code de la presse qui a été adopté, je crois, en 2017, avait énuméré beaucoup de conditions de viabilité et d'existence des médias au Sénégal. Et vous savez que dans nos pays africains, beaucoup de médias ne remplissent pas les critères prévus par la loi. Si ces médias ne remplissent pas les critères prescrits par le code de la presse, par les textes en vigueur, je pense qu'il est de bon droit d'appliquer la loi. Cependant, c'est quand même curieux que des médias qui sont pas hostiles, mais critiques, qui sont critiques des médias indépendants, proches de l'opposition, ne soient pas éligibles. Donc c'est ce qui m'embête un peu, mais il va falloir justement que les médias qui ont été récalés puissent se conformer à la loi et que les autorités également lâchent un peu du lest. Quoique ces mesures ont été prévues dans le code de la presse, mais il faudrait lâcher du lest parce que fermer un média dans un pays comme le Sénégal, c'est contre-productif. Les médias, tout le monde le sait, participent à l'éclosion, à l'animation de la vie démocratique. Il faudrait donc essayer de voir comment lâcher du lest pour permettre à ces journalistes de poursuivre leur rôle d'information.
L'actualité au Sénégal est bien évidemment à suivre sur RFI à travers nos journaux. C'est le moment de faire une courte pause dans ce débat africain. Restez avec nous juste après le journal. Nous parlerons de la Corée du Sud, le pays du matin calme qui a basculé dans une surprenante situation de chaos politique après l'imposition surprise de la loi martiale de la part du président. Enfin, nous reviendrons sur la grâce présidentielle de Joe Biden à destination de son fils.
Le débat africain, Namouri Dosso.
Merci d'être avec nous dans la seconde partie du débat africain sur RFI. Ce samedi, place au regard des journalistes et éditorialistes du continent sur ce monde en perpétuel mouvement. Pour analyser tout cela, nous sommes en compagnie de trois invités. Boubacar Sansobari, administrateur général du site d'information guinéen ledjeli.com et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Punch. À Cotonou au Bénin, Wuldat Mama, consultante spécialisée dans les questions internationales pour la Société de radio et télévision du Bénin. Enfin, Eric Topona, journaliste tchadien au sein de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle en Allemagne.
À 23h hier, j'ai déclaré la loi martiale d'urgence avec la volonté de sauver le pays contre les forces anti-étatiques qui veulent paralyser les fonctions essentielles de l'État et effondrer la démocratie libérale et l'ordre constitutionnel.
Yoon Suk Yeol a tenté un coup d'État en recourant à la trahison, à la rébellion militaire et à la violation des dispositions constitutionnelles et légales.
Je pense que si le président Yoon continue d'occuper la fonction de président, il existe un risque important que des actions extrêmes, similaires à la déclaration de la loi martiale, soient répétées, ce qui pourrait mettre la République de Corée et ses citoyens en grand danger.
Le légendaire matin calme sud-coréen a été mis à rude épreuve cette semaine. Le président Yoon Suk Yeol a plongé son pays dans une crise politique inhabituelle. Mardi soir à la télévision, le dirigeant sud-coréen a décrété la loi martiale, raison invoquée, protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments anti-étatiques. Mais c'était sans compter sur les parlementaires qui ont voté en faveur de la levée de cette loi martiale quelques heures plus tard. Le président a fini par faire marche arrière, mais son geste n'est pas sans conséquence, puisque le chef d'État sud-coréen a fait l'objet d'une motion de destitution portée par l'opposition et son propre parti. Vous avez pu suivre les derniers développements dans nos journaux sur RFI. Boubacar Sansobari, avez-vous compris le geste de Yoon Suk Yeol, le président sud-coréen ?
Non, je ne l'ai pas compris, parce que ce que j'ai vu, c'est un président qui, parce qu'il se bute à un parlement dominé par l'opposition, n'a pas admis, n'a pas consenti à utiliser ou à accepter les mécanismes de résolution de ce type de contradiction en démocratie, et qui a voulu, comme n'importe quel autoritaire à travers le monde, invoquer des prétextes de circonstances qui ne tiennent pas pour instaurer la loi martiale. On va dire heureusement qu'il s'est retrouvé en face, puisque c'est une démocratie, s'est retrouvé en face d'hommes, de personnalités, d'institutions qui étaient désireux d'assumer leurs responsabilités, qui étaient désireux de jouer leur rôle. Si ça ne tenait qu'à lui seul, voilà, il aurait obéi à ses propres désidratas en niant tous les principes qui doivent gouverner une démocratie comme la Corée du Sud.
Alors, certains analystes sud-coréens estiment que l'invocation de cette loi martiale par le président est une forme de suicide politique. Vous partagez ce point de vue, Wuldat Mama ?
Oui, tout à fait. Je pense surtout que c'est la manifestation de l'hubris d'un président à la santé politique manifestement déclinante. Il faut rappeler qu'il est crédité de seulement 20% d'approbation dans les sondages et qu'il est également empêché, limité dans ses marges de manœuvre par une opposition majoritaire au Parlement. Il faut dire que l'opposition l'empêche d'adopter son budget. Et c'est un président également, il faut dire, qui est empreint d'une culture assez autoritaire, qui a été amené à glorifier dans certaines déclarations d'anciens dictateurs. Et c'est également...
Alors précisons pour nos auditeurs que la Corée du Sud a longtemps été gouvernée par des dictatures militaires.
Absolument, une trentaine d'années depuis la fin de la guerre de Corée au milieu des années 50. Donc la démocratie a seulement pris racine à la fin des années 80. Et c'est un merveilleux témoignage aussi, le sursaut démocratique et bien.
Alors justement, on reviendra dans quelques minutes sur ce sursaut, sur le message qu'ont envoyé les politiques et la société civile sud-coréenne, un message que le monde a pu constater. Néanmoins, Eric Topona, du côté des partisans du président, certains estiment que décréter cette loi martiale était totalement justifiée. Est-ce que vous pensez la même chose ?
Non, je désapprouve leur position parce que le président sud-coréen est impopulaire, hein, hein, tout le monde le sait. Et il était déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, l'objet de critiques et beaucoup de ses opposants ont appelé à sa destitution. Il faut rappeler que les autorités sud-coréennes ne sont pas à leur première tentative d'instaurer la loi martiale. Je pense que le président sud-coréen voulait juste profiter hein, de l'occasion qui ne lui est pas favorable, hein, sa cote de popularité qui est en berne, pour essayer d'amadouer ou de faire adhérer hein, ses compatriotes à sa vision.
Donc, alors, selon le président sud-coréen, lorsqu'il a décrété cette loi martiale, il a invoqué le fait de protéger le pays face à une supposée menace communiste intérieure. C'est ce qu'il a dit pour se justifier. Est-ce que cette explication vous paraît plausible ?
Non, moi je pense que c'est juste du populisme. Hein. C'est une façon donc de faire adhérer, comme je viens de le dire, ses compatriotes à sa vision pour essayer d'éloigner un peu hein, le spectre de destitution. Et il se dit, bon, ok, il faudrait que je prenne cette décision pour espérer donc unir les Sud-Coréens à ma politique, mais c'est perdu, puisque quasiment l'ensemble des forces politiques et une grande majorité des Sud-Coréens désapprouvent cette situation, même si la sécurité de leur pays leur tient beaucoup à cœur.
Boubacar Sansobari.
Oui, c'était une manœuvre, mais finalement, elle était désespérée. Et lui-même aurait dû savoir qu'il était parti pour ne pas gagner la bataille. Encore une fois, les rapports de force, d'abord au Parlement, sa cote de popularité à lui. Et lui aussi, qui n'est pas né de la dernière pluie, aurait dû comprendre que les Sud-Coréens sont suffisamment désormais sensibles à la démocratie, aux vertus de la démocratie, pour ne pas le laisser réinstaurer, recréer un climat d'autoritarisme comme il voulait le faire.
Alors cette crise politique au pays du matin calme en Corée du Sud, rappelons qu'elle intervient dans un contexte très particulier hein, pour le chef d'État sud-coréen. La femme du président est également sous le coup d'une enquête pour corruption. Est-ce que le président sud-coréen aurait-il en fin de compte voulu protéger ses proches avec cette loi martiale, Wulda Mama?
Oh, je pense que c'est plus que ça. Hein. Je pense qu'effectivement, la moutarde certainement est montée au nez de ce chef d'État avec les scandales à succession. Hein. Oui, un sac de luxe, hein, notamment, qui a été offert à cette première dame. Mais je pense que c'est surtout quelqu'un, un président, qui était là. C'est l'explosion, finalement, de sa frustration devant les barrages opposés par l'opposition majoritaire au Parlement et même son propre parti, parce qu'il faut quand même rappeler que la levée de la loi Marcel a été adoptée par tous les députés, les 190 à l'Assemblée, au Parlement. Donc c'est un désaveu majeur, sans appel.
Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Wulda, j'aimerais que l'on revienne hein, sur la réaction de la population sud-coréenne qui est descendue pacifiquement dans les rues du pays pour s'opposer au projet du chef de l'État. En quelques heures, ils ont fait reculer le président sud-coréen. Éric Topona, que vous inspire la mobilisation du peuple sud-coréen ?
Cette mobilisation a contribué à le faire reculer, hein, puisque cette population a manifesté son opposition. Ça prouve qu'elle est représentative et c'est un peu le reflet même de la configuration politique au sein donc du Parlement sud-coréen. Et le président n'avait pas d'autre choix que de reculer. Et moi, je reviendrai sur les raisons évoquées pour justement imposer cette loi martiale, même s'il a reculé après. Il a accusé les forces pro-nord-coréennes et anti-étatiques d'avoir tenté de déstabiliser son pays sans apporter des preuves. Et je pense qu'il visait simplement l'opposition. C'était une façon de reprendre la main, une façon...
Une manœuvre politique, donc.
Voilà, une manœuvre politique et politicienne. C'est peine perdue. Et les populations ont bien réagi pour dire non, attention, nous sommes une démocratie. Ces manœuvres de notre âge ne peuvent pas se dérouler chez nous. Et je pense que le président n'avait pas le choix donc de se plier.
À l'heure où les dirigeants autoritaires hein, sont à la tête de plusieurs grandes nations à travers le monde, que nous dit ce sursaut démocratique de la population sud-coréenne, Boubacar Sansobari?
C'est un brin d'espoir et c'est un exemple peut-être qui devrait inspirer dans d'autres pays et c'est la preuve aussi que quand les populations, quand les peuples de manière authentique ne veulent pas il y a des chances que les dictatures ne s'instaurent pas ou en tout cas qu'elles ne perdurent pas. On en a eu des exemples ailleurs, mais le cas sud-coréen nous conforte dans le fait que si les populations ont conscience du poids qu'elles représentent, elles peuvent fondamentalement jouer un rôle dans la préservation de la démocratie, dans la lutte contre les dictatures.
Le débat africain.
Autre décision inattendue, celle du président américain. Quelques jours de son départ du pouvoir, Joe Biden a décidé de gracier son fils Hunter, mis en cause dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Joe Biden avait pourtant répété qu'il n'interviendrait pas dans les démêlés judiciaires de son fils. Wuldat Mama, est-ce qu'un président, qui plus est américain, devrait gracier son fils ?
Non, je pense que... Alors, il y a eu des précédents, hein, Namori. On sait que Bill Clinton a gracié un de ses proches. On sait que Donald Trump, à la fin de son premier mandat, a gracié eh bien, le père de son gendre. Donc, ça constitue quelque part une trahison, d'une part de la parole donnée, parce que à plusieurs reprises, il avait eh bien, promis aux Américains qu'il ne le ferait pas. C'est également une trahison envers eh bien, la promesse présidentielle qu'il a faite lorsqu'il a pris ses fonctions, c'est-à-dire que son mandat devait incarner une certaine exemplarité pour incarner aussi une forme de rupture face aux pratiques, hein, aux dérives de la première présidence Trump. Et c'est un cadeau de départ empoisonné, non seulement au pays, que diront donc les apprentis autoritaires dans le reste du monde aujourd'hui, et c'est un cadeau empoisonné également eh bien, à son parti démocrate.
Alors justement, Wuldat, on va en parler dans quelques instants, hein, du parti démocrate et de l'État dans lequel il est actuellement. Joe Biden est une fois de plus revenu sur sa promesse, vous l'avez dit, Wuldat. Il avait promis tout d'abord de ne pas être candidat à un second mandat avant de faire marche arrière, ce qui a peut-être coûté la présidentielle au clan démocrate. Désormais, il va faire gracier son fils qui fait face à la justice. Éric Topona, selon lui, il s'agirait d'une erreur judiciaire. C'est ce qu'il a invoqué, c'est ce qu'il a justifié dans le communiqué paru dimanche dernier. Peut-on vraiment parler d'une erreur judiciaire en ce qui concerne le cas de Hunter Biden ?
Je pense qu'il faudrait relativiser les choses parce que le président américain a utilisé un droit que lui confère la constitution de son pays, notamment l'article 2. C'est un droit qui est reconnu à tous les dirigeants du monde, même si il n'aurait pas dû le faire pour paraître justement exemplaire. Mais sinon, sur le principe, moi je pense que c'est un droit constitutionnel. Il l'a utilisé. C'est bien dommage pour une démocratie comme aux États-Unis. Il aurait dû être exemplaire, laisser la justice faire son travail. Le président Biden n'aurait pas dû faire ça, même si la Constitution lui autorise. Donc je pense que même si c'est contestable, il n'avait pas le choix que d'utiliser peut-être ce droit constitutionnel pour espérer gracier son fils. Et qui sait, Donald Trump ferait pareil. Hein,
Bah justement, c'est un peu les craintes de certains aux États-Unis. Joe Biden fait-il preuve d'une forme d'opportunisme politique, Boubacar Sansobari ?
Certainement, parce que peut-être aussi il se dit que à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, où il sera remplacé par Donald Trump, à accepter le principe que son fils puisse aller en prison, c'est peut-être prendre le risque de voir son successeur essayer d'utiliser son enfant à des fins de revanche. Mais dans tous les cas, certains arguments qui ont été utilisés de la bouche du président américain, la notion d'erreur judiciaire, personnellement, ça me gêne. Jusqu'à récemment, c'était des expressions qu'on entendait plutôt dans des pays qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Je dis aussi qu'il se fait du mal à lui-même parce que probablement, ce tact-là risque d'être celui auquel on va davantage l'associer parce que c'est pratiquement le dernier acte qu'il prend en tant que président. On risque de résumer sa carrière politique peut-être avec un tel acte. D'autant que il avait clairement indiqué qu'il ne ferait pas, qu'il ne gracierait pas.
Absolument, qu'il ne le ferait pas. Néanmoins, Boubacar, le président américain est également un père qui vole au secours de son fils. N'est-ce pas d'une certaine manière légitime, Wuldat Mama ?
Non, parce que lorsque on prend des fonctions et de telles fonctions, mais où serions-nous, Namori Dosso, si nous donnions un chèque en blanc eh bien, à nos dirigeants d'utiliser eh bien, les manettes, les leviers du pouvoir d'État eh bien, pour régler leurs problèmes personnels. Je pense que l'ensemble des check and balances, l'ensemble des contre-pouvoirs, l'ensemble de l'éthique gouvernementale eh bien, cible justement cette tentation eh bien, de nos dirigeants. Donc je pense qu'il est sans excuse, parce qu'on est humain. On peut comprendre un vieux monsieur qui va partir et qui se dit qu'il a perdu beaucoup de ses enfants, qui a eu quand même un parcours assez traumatique. Hein. Il a perdu également une épouse. Donc, on peut comprendre quelque part ce vieil homme, Joe Biden, qui ne veut peut-être pas être achevé par eh bien, une sentence lourde hein, comme ça qui frapperait son fils. Mais quand même, dans notre posture de commentateur de la vie publique, on est quand même obligé de rappeler un certain nombre de principes démocratiques. S'ils ont été mis en place comme ça par nos prédécesseurs, par nos devanciers de la société civile et également certains hommes d'État, c'est bien justement pour nous protéger. Quelque part, c'est abonder dans le sens de Donald Trump pour dire que toute la justice est corrompue. Au-delà d'avoir ouvert la boîte de Pandore en faveur de Donald Trump, Namori, il y a quand même un problème. On sait bien aux États-Unis eh bien, le biais de l'institution judiciaire, la machine à broyer notamment à l'égard des minorités raciales et notamment afro-américaine, que dirait-elle aujourd'hui ? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas le fils du président, vous ne pouvez pas bénéficier de cette mesure-là. Donc là aussi, c'est une entorse à l'état de droit, une entorse à sa propagation, à son ancrage ici, notamment dans certains pays du Sud, où nous sommes tous là à lutter eh bien, pour défendre ces principes-là. Donc je pense que Joe Biden ne nous a pas aidés.
Éric Topona.
Bon, moi je pense que c'était maintenant ou jamais, hein, pour parler de façon triviale, puisqu'il est au terme de son mandat, il s'est dit il fallait donc utiliser pour mettre son fils à l'abri justement des ennuis judiciaires. Et s'il ne le faisait pas, je pense qu'il n'aurait plus jamais eu l'opportunité de le faire. Et il faut rappeler, hein, tout à l'heure j'ai oublié de citer Gerald Ford, hein, qui avait accordé en 1974 une grâce totale et inconditionnelle à son prédécesseur Nixon, hein, qui venait de démissionner alors que ce dernier était également à l'époque visé par une procédure de destitution après donc le célèbre scandale du Watergate. Donc il y a eu des précédents qui ont suscité beaucoup de polémiques, mais encore une fois, c'est un pouvoir régalien qui a été reconnu et s'est consigné dans la Constitution des États-Unis, même si, pour donner l'exemple, il n'aurait pas dû le faire, mais malheureusement, le vin est tiré et il faut le boire, même si c'est à déplorer.
Alors enfin, ça sera ma dernière question à destination de Boubacar Sansobari, notre confrère en Guinée. Boubacar, qu'est-ce qui empêchera désormais Donald Trump, le futur président aux États-Unis, de gracier à tour de bras, à commencer par lui-même ?
Non, rien, mais personnellement, je ne pense pas que Donald Trump aurait attendu dans son fonctionnement, dans sa mentalité. Donald Trump n'est pas nécessairement quelqu'un qui se préoccupe de ce qu'on pense de lui. Il a suffisamment secoué la démocratie américaine sans nécessairement avoir besoin que quelqu'un lui montre la marche à suivre. Donald Trump n'a pas besoin de ça. C'est quelqu'un qui, indépendamment de tout ça, aurait pris les décisions de gracier qui il veut, y compris sa personne. Moi, mon problème, c'est plutôt Joe Biden par rapport à l'exemplarité du Parti démocrate que le Parti démocrate aurait dû incarner, à sa personne à lui-même par rapport au fait qu'il s'en va désormais de la scène politique. Sinon, pour Donald Trump, je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour prendre ses décisions.
Et c'est avec les mots et le point de vue de notre confrère en Guinée que nous allons clore ce débat africain sur RFI. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine en Afrique et ailleurs dans le monde. Ce débat africain, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver et le réécouter sur l'application mobile RFI Pure Radio. Merci à l'équipe grâce à laquelle nous vous proposons chaque semaine cette émission. Delphine Michaud à la coordination, Olivier Roux et Taguimfa Traoré à la réalisation. De Tunis au Cap en passant par Dakar et Mogadiscio, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur un monde en perpétuel mouvement.